Chapitre 26. Un jour de Dieu, 1000 ans. L'exposé suivant devrait servir à comprendre véritablement la répartition du plan de Dieu pour les temps destinés à l'humanité. Il est écrit dans le psaume 94. Car 1000 ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Dans le Nouveau Testament, Pierre exprime la même pensée. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimée, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre 3:8. Lorsque, dans les Saintes Écritures, il est question des derniers jours, nous devons, en fait, prendre garde s'il s'agit de jours au sens prophétique du terme ou s'il est réellement question de la dernière génération. Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e jour. Si on lit attentivement le récit de la création, nous y trouvons cette parole. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Genèse 2:2. Comme nous le verrons encore, ceci est d'une grande importance pour le déroulement des 7000 ans de l'histoire de l'humanité. Le nombre 7 est le nombre de la perfection divine. Le 8e jour serait à nouveau le premier d'une nouvelle période. Le déroulement du temps biblique peut être divisé en différentes périodes telles que 2000 ans, 2 jours pour Dieu, qui se sont écoulés d'Adam à Abraham, les 2000 ans suivants se sont écoulés d'Abraham à Christ, et maintenant nous nous approchons à nouveau de l'achèvement d'une époque de 2000 ans. Le 7e jour est le jour de repos du Seigneur, c'est-à-dire celui du règne de 1000 ans. Les prophètes et les apôtres ont parlé et écrit au sujet du jour du Seigneur. Jean fait le récit d'un événement survenu lorsqu'il se trouvait sur l'île de Patmos. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. » Apocalypse 1:10. Selon lui, second. Ce dernier jour commence par la grande confrontation connue sous le nom de bataille d'Armageddon, Apocalypse 16, 14-16, et qui se terminera par le grand combat de Gog et de Magog après le millénium, lorsque Satan aura été délié et qu'il aura encore une fois séduit les nations, Apocalypse 20, 7 à 10. Entre les deux est manifesté le règne de paix de 1000 ans, où le loup habitera avec l'agneau et le léopard couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion et la bête grasse seront ensemble. La vache paîtra avec l'ours. Ésaïe 11, 6-7. Et de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 2:4. Michée 4:3. En ce jour-là, il y aura une racine d'Isaïe, se tenant là comme une bannière des peuples. Les nations la chercheront, et son repos sera gloire. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra sa main encore une seconde fois pour acquérir le résidu de son peuple qui sera demeuré de reste. Ésaïe 11, 10-11. Du point de vue prophétique, nous vivons depuis le début de la Nouvelle Alliance dans les 2 derniers jours, que l'on appelle aussi la fin des temps. Préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps, pour vous. 1 Pierre 1:20. Cette époque tire à sa fin. À cause de la manière différente de compter les années, année biblique 360 jours, année solaire 365, il n'est pas possible de calculer ce temps. Dieu en soit remercié. Cependant, dans les grandes lignes, il nous a été donné un point de repère et une orientation dans le temps. Par l'accomplissement des événements qui apparaissent, les signes des temps, nous pouvons constater que nous vivons maintenant à la fin du temps de la fin, l'imminence des grands changements qui surviennent dans l'histoire de l'humanité, selon la volonté de Dieu, peut être clairement reconnue et tout cela s'est rapproché de façon évidente. Le jour de Pentecôte, Pierre avait devant les yeux les deux jours prophétiques, lorsqu'il plaça l'événement de l'effusion de l'Esprit sur le fondement de la parole de Joël 3. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël 3:1-5. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2:16-17. À la fin de ces derniers jours, c'est-à-dire après le déroulement de ces 2000 ans de l'histoire du salut, Pierre situe avec toute l'exactitude voulue le jour du Seigneur, lequel ne peut arriver que lorsque le jour du salut sera parvenu à sa fin. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne la grande et éclatante journée du Seigneur. Acte 2:20. Selon Malachi 4:5, le jour de l'Éternel est un jour grand et terrible. Certains événements arriveront à la fin de cette époque de 2000 ans, d'autres au commencement du septième jour, donc au jour de l'Éternel. Il n'y a aucun passage biblique qui désigne le sabbat ou le dimanche comme étant le jour du Seigneur. Ce jour ne sera magnifique que pour les rachetés. Philippiens 1:6 et 2:16. Mais pour tous les impies, ce sera un jour terrible. Ésaïe 13:6-17. De même qu'après avoir achevé son œuvre de création, Dieu s'est reposé le septième jour, ainsi en sera-t-il à l'achèvement de son œuvre de rédemption. Le temps de la grâce est aussi appelé jour du salut, ou temps favorable, ou temps agréé. Ésaïe 49:8, 2 Corinthiens 6:2. Il est aussi appelé année de la faveur de l'Éternel. Ésaïe 61:2, Luc 4:19. Quand on parle de l'année agréable au Seigneur, on pense aussi au jour du retentissement des trompettes, ou, comme on le dit aussi, au jour du jubilé, lequel, dans l'Ancien Testament, avait toujours lieu après les 7 périodes de 7 ans, c'est-à-dire la 50e année. Tous ceux qui se trouvaient dans les dettes et qui avaient dû se vendre comme esclaves, tous ceux qui avaient perdu tous leurs biens, pouvaient, lors du jubilé, rentrer en possession de leurs biens primitifs. Lévitique 25. Lors du grand jour de l'expiation, l'année du jubilé, les trompettes sonnaient et ce jour-là, tous ceux qui avaient des dettes étaient libérés. Pareillement, après qu'aura eu lieu le grand jour de la réconciliation de Dieu avec l'humanité en général, la trompette de l'Évangile retentira et quiconque écoutera et croira pourra s'en aller libre, indépendamment du lieu et du temps dans lequel tout homme vit. Le temps entier de la grâce se trouve être l'année divine du retentissement des trompettes, laquelle est appelée par notre Seigneur l'an agréable. Pendant cette période, quiconque croit Dieu et reçoit la rédemption parfaitement achevée a le droit de s'en aller libre, notre Seigneur Jésus s'est écrié en son temps, « Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie, vous l'entendant. » Luc 4, 21. Cet « aujourd'hui » est le jour de grâce dont Dieu nous a fait don. Hébreux 4:7. Au sujet des deux derniers jours, c'est-à-dire de cette période de 2000 ans, Pierre dit encore, « Et même tous les prophètes, depuis Samuel, et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé, ont aussi annoncé ces jours. » Actes 3:24. Nous sommes plongés dans l'étonnement lorsque nous voyons comment les hommes de Dieu du Nouveau Testament ont pu décrire par révélation et avec une aussi grande exactitude les desseins de salut de Dieu. Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda une nouvelle alliance. Hébreux 8:8. Dieu a conclu cette alliance en Christ à Golgotha et il donne cette promesse à Israël. Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur entendement. Je les écrirai aussi sur leur cœur, et je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple. Hébreux 8:10. En rapport avec la période de l'Ancien Testament, laquelle est également appelée « jour » au sens prophétique du terme, nous pouvons lire dans Hébreux 1:1 « Dieu, ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parler au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils. La fin de ces jours des Pères a débouché dans le commencement des jours où Dieu a parlé dans le Fils et a apporté par lui la réponse à tous nos problèmes. C'est-à-dire qu'il s'agit du temps qui, pour l'Église, dure depuis environ 2000 ans et qui trouve son achèvement à la fin de cette époque-ci. Ensuite vient la réalisation des plans de Dieu pour Israël. Ce grand événement tombe au commencement du septième jour, directement avant le commencement du règne de 1000 ans. Osée 6, 1-2 nous dit ceci. « Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré. » Et il nous guérira, il a frappé, et il bandera nos plaies. Dans deux jours, il nous fera vivre. Au troisième jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face. Depuis l'an 70 de notre ère, lorsque le temple fut détruit par les armées romaines sous la conduite de Titus, Israël fut dispersé parmi tous les peuples, comme le prophète Moïse l'avait déjà annoncé à l'avance. Il avait en même temps annoncé son retour dans le pays de la promesse. Deutéronome 4, 27-28. Par la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur nous a aussi dit, « Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. » Et ils viendront et exulteront avec chants de triomphe sur les hauteurs de Sion. Et je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai, et je les réjouirai en les délivrant de leur douleur. Jérémie 31, 10, 13. Dans Ézéchiel, au chapitre 36 à 38, plus particulièrement, beaucoup de choses nous sont dites à ce sujet. Ainsi dit l'Éternel, le Seigneur, voici je prendrai les fils d'Israël d'entre les nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ferai entrer dans leur terre. » Ézéchiel 37, 21. Au chapitre 38, le temps dans lequel toutes ces choses arrivent nous est décrit de manière encore plus précise. « À la fin des années, ce sera à la fin des jours. » Versets 8 et 16. Dans le texte d'Osée que nous avons mentionné, il nous est dit que cela arrivera après deux jours, c'est-à-dire après 2000 ans, et que le troisième jour, l'Éternel secourra Israël et qu'il recevra de Dieu la vie. L'espérance dans le Messie est demeurée vivante jusqu'aujourd'hui parmi les croyants juifs. Généralement, la prière faite devant le mur des Lamentations se termine par la demande du retour du Messie et de la reconstruction du Temple. Dans Osée, il est dit ensuite « Et nous connaîtrons, et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour. Et il viendra à nous comme la pluie, comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. » Osée 6:3. Comme par un miracle de Dieu, l'État d'Israël existe à nouveau depuis 1948. Du point de vue de l'histoire du salut, Dieu s'occupe d'Israël en le considérant comme un tout dans son propre pays. Mais par contre, il appelle individuellement les croyants des différents peuples et langues à sortir de la confusion. En ce qui concerne l'achèvement de l'Église des nations et le salut d'Israël, Paul écrit « C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. » Romains 11, 25, 26. Jacques avait déjà exprimé la même pensée lors du premier rassemblement de l'Église à Jérusalem. Simon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour attirer un peuple pour son nom, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit « Après ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David » qui est tombé, et je réédifierai ses ruines, et je le relèverai. » Actes 15, 14, 16. Le prophète Amos l'exprime de cette manière. « En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David. » Amos 9, 11. En rapport avec le peuple d'Israël, Sophonie écrit « En ce jour-là, tu ne seras pas honteuse à cause de toutes tes actions. » Sophonie 3:11. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. » Zacharie 12, 3, 9 et 10. La réalité du retour du peuple d'Israël dans sa patrie est la preuve infaillible que nous vivons maintenant à la fin du temps de la grâce et que le Seigneur va se révéler aux Juifs dans très peu de temps. Avant que ne commence le dernier jour, l'œuvre de Dieu avec l'Église doit être achevée. C'est ainsi dit le Seigneur. « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. » Malachie 4, 5. Se pourrait-il que cette promesse se soit déjà accomplie sans que le clergé établi l'ait remarqué? C'est en tout cas ce qui s'était passé au début du temps de la grâce. Parce que Jean-Baptiste a accompli la première partie du verset 6 de Malachie 4, et il fera retourner le cœur des fils vers les pères. Luc 1, 17. Il fut aussi appelé Élie. Cependant, depuis ce temps, presque 2000 ans se sont écoulés et le jour du Seigneur n'est toujours pas venu. Jean-Baptiste était le messager qui, conformément à Malachie 3:1, a préparé le chemin du Seigneur. Matthieu 11:10, Marc 1:1-3. On posa entre autres cette question à Jean-Baptiste. « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Là-dessus, il répondit « Je ne le suis pas. » Jean 1:21. Avant que ne se termine le jour de la grâce et que ne commence le jour du jugement et de la colère, Dieu voulait envoyer un homme avec un ministère semblable à celui du prophète Élie. Cet homme a eu pour tâche de reconduire le cœur des enfants de Dieu vers le cœur et la foi des pères apostoliques. Malachie 4:6. Comme Élie appela le peuple d'Israël sur la montagne du Carmel, qu'il releva l'autel de l'Éternel en prenant exactement 12 pierres, lesquelles correspondent aux 12 tribus d'Israël, afin que le Dieu du ciel puisse répondre et provoquer la décision du peuple. Ainsi, l'Élie de notre temps a replacé la doctrine des 12 apôtres sur le fondement de l'Église, afin que le Dieu vivant puisse reconnaître sa parole et révéler sa puissance dans son Église. Cet homme ne peut être un représentant d'une dénomination, il doit être un homme envoyé de Dieu, avec le message divin, adressé directement au peuple de Dieu. Dans Matthieu 17:11, Christ confirme ce ministère qui, en ce temps-là, était encore à venir. Et lui, répondant, leur dit, « En effet, Élie vient premièrement, et il rétablira toutes choses. » Le docteur Scofield confirme ce fait dans la note explicative de sa traduction de la Bible dans Matthieu 17:10, comme d'autres connaisseurs des prophéties bibliques le font également. Christ confirme la prophétie précise mais encore inaccomplie de Malachie 4:5-6. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ici, comme en Malachie, la prophétie réalisée par Jean-Baptiste et celle qui doit l'être encore par Élie sont distinctes. Mais Jean-Baptiste est déjà venu, exerçant un ministère en conformité absolue avec l'esprit et la puissance du ministère futur d'Élie. Luc 1:17. Si bien qu'au sens figuré, on pourrait dire « Élie est déjà venu ». Matthieu 17:12. Le précurseur de la première venue de Christ s'est avancé dans l'esprit et la puissance d'Élie. L'homme de Dieu qui précède la deuxième venue de Christ doit mettre de nouveau toutes choses en ordre et à leur juste place, selon l'ordonnance biblique, de la même manière qu'elle se trouvait dans le christianisme primitif. Conformément aux Saintes Écritures, cela doit arriver avant le retour de Jésus-Christ, car il est écrit de lui, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Acte 3:21. Concernant le jour du Seigneur, Paul écrit aux Thessaloniciens, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5:2. Cela veut dire qu'il n'y aura pas d'avertissement préalable particulier et qu'il y aura ce jour-là une grande surprise. Au sujet de ce jour, Paul dit encore, « Quand ils diront paix et sûreté, Alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5:3. En nul autre temps, la notion de paix et de sécurité n'a joué un aussi grand rôle qu'en ce temps précisément. Voilà pourquoi des politiciens veulent donner la paix et la sécurité au peuple éprouvé par la souffrance. Mais c'est aussi précisément juste au moment où l'on insistera sur ces slogans de paix et de sécurité que surviendra ce jour. Maintenant, ce temps est là. Dans toute l'Europe de l'Est et de l'Ouest s'implante la pensée de désarmement et de sécurité, et cela à travers le monde entier. Pour les connaisseurs des Saintes Écritures, ce jour ne viendra pas à l'improviste, car, en se fondant sur les signes des temps, ils voient combien le développement de ces choses a progressé. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens 5:4. L'apôtre Paul saisit le thème du retour du Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement avec lui, et dans ce contexte, il nous exhorte à ne pas nous laisser troubler. Comme si le jour du Seigneur était là. 2 Thessaloniciens 2:2. Dans ce chapitre, comme aussi en d'autres passages des Écritures, les signes spirituels de cette dernière époque, que l'on appelle également le temps de la fin, nous sont décrits. Que, à la fin du temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Jude 18. Nous trouvons presque les mêmes paroles dans 2 Pierre 3:3. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise. Au verset suivant, l'apôtre nous décrit la marque distinctive de ces moqueurs qui ne se moquent pas des choses en général, mais se raillent de la promesse du retour de Christ et disent « Où est la promesse de sa venue ?» La situation générale prévalant dans les derniers jours, c'est-à-dire au temps de la fin, nous est décrite en 2 Timothée 3, 1-9. Que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu. Le Seigneur a exprimé là quel serait en général l'état moral et spirituel de l'humanité en ces derniers jours. Il en est comme au jour de Noé et au temps de Sodome et de Gomorre. Luc 17. Au temps de Noé eut lieu le grand mélange des deux lignées, de Seth et de Caïn, à cause duquel Dieu décida de mettre fin à toute chair. Genèse 6. De la même manière, nous trouvons maintenant le plus grand des mélanges religieux qui ait jamais eu lieu. Dans 2 Timothée 4, 1-5, nous sommes mis en garde contre toute prédication qui s'écarte de la parole de vérité, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Dans 1 Timothée 4, 1-3, ce n'est pas l'apôtre, mais bien l'Esprit de Dieu qui nous annonce à l'avance le développement spirituel de ces derniers temps. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, défendant de se marier. faisant du célibat une obligation, prescrivant de s'abstenir des viandes, par exemple de ne pas manger de viande le vendredi, que Dieu a créé pour être prise avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Ce qui est présenté aux hommes comme étant particulièrement digne d'effort est qualifié par les saintes écritures de doctrine de démons. L'apôtre Pierre a aussi écrit sur le jour du Seigneur qu'il appelle également « jour de Dieu ». Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, et les œuvres qui sont en elle, seront brûlées entièrement. 2 Pierre 3:10. Le prophète Daniel se rapporta maintes fois au temps de la fin. Nous lisons au chapitre 2, 28. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la fin des jours. Au chapitre 8, versets 17, 19 et 26, il lui fut dit : Comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car à un temps déterminé sera la fin. Et toi, serre la vision, car elle est pour beaucoup de jours. Au dernier chapitre, presque les mêmes paroles sont criées à Daniel. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Daniel 12, 4 et 9. Jusqu'ici, il n'était réellement pas possible, comme c'est le cas maintenant à cause du développement politique, de classer correctement, selon les saintes écritures, la partie prophétique de l'histoire. L'Europe religieuse et politique qui prend actuellement naissance est la restauration de l'Empire romain, et cela a en fait commencé avec le traité de Rome du 25 mars 1957. Le développement irréversible en Europe centrale ainsi que la situation générale dans le monde nous montrent clairement que nous vivons maintenant très près du retour de Jésus-Christ et du jour du Seigneur qui va le suivre. Non seulement le temps est proche, mais il est là. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'interpréter la prophétie biblique car nous la voyons se réaliser sous nos yeux. Le temps de grâce, le jour du salut, tire à sa fin. Le compte à rebours a déjà commencé. Une époque arrive à sa conclusion et une autre commence. Après le septième jour, le dernier millénaire, le temps se fondra alors dans l'éternité.